Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le projet d'une nouvelle constitution en Centrafrique, une nouvelle loi fondamentale qui sera soumise à référendum. Et parmi les articles qui seraient modifiés, celui qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'idée étant donc de supprimer cette limitation, comme c'est déjà le cas dans les autres pays de la sous-région. La tentation d'un troisième mandat pour le président Touadéra. Vos réactions, vos commentaires évidemment nous intéressent. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, vos questions à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, un anniversaire célébré en grande pompe ce mardi à Alger, avec notamment une parade militaire inédite, le premier grand défilé de l'armée depuis 33 ans. Il y a déjà beaucoup de monde pour assister à ce défilé qui doit commencer dans une heure maintenant. Bonjour Pierre Vermeuren. Pierre Vermeuren.
Oui, vous m'entendez ?
Je vous entends maintenant. Merci d'être avec nous, je vous en prie. Vous êtes professeur d'histoire des sociétés arabes et berbères contemporaines à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On vous doit de nombreux ouvrages. Je citerai votre dernière publication, Histoire de l'Algérie contemporaine, de la Régence d'Alger au Irak. C'est aux éditions Nouveau Monde. Il y a donc 60 ans, l'Algérie s'émancipait de plus de 130 ans de tutelle française, une indépendance obtenue au terme d'une guerre qui aura duré tout de même 8 ans. Quelle était l'ambiance, Pierre Vermeuren, il y a 60 ans, jour pour jour, à Alger ?
Bah, écoutez, ça dépend où on se trouve. Hein. Si vous êtes dans la Casbah et dans les quartiers arabes, entre guillemets, ainsi qu'ils étaient appelés, devenus algériens, ce jour même, eh bien, vous êtes dans une ambiance de fête immense, de joie. Si vous êtes dans les quartiers européens ou dans les casernes, vous êtes dans une ambiance beaucoup plus maussade, puisque ce jour-là, c'est le jour du grand massacre d'Oran qui a précipité l'exil des Pieds Noirs. C'est le début de la fin aussi pour les Harkis qui ont été ou qui sont en cours de désarmement par l'armée française. Et donc, vous avez d'un côté une immense joie de la fin de ces années de guerre, de la libération du pays, de l'indépendance, et de l'autre, évidemment, la fin d'un monde.
La fin d'un monde. Faut quand même rappeler aux auditeurs que quelques jours auparavant, le 1er juillet, les Algériens, la population algérienne, étaient appelés à voter pour son autodétermination lors d'un référendum largement remporté. Le oui est arrivé à plus de 99%.
Bien sûr, de toute manière, les jeux étaient faits depuis longtemps. Vous savez, 8 ans de guerre, c'est très très long. Il y a eu des épisodes multiples. De Gaulle a annoncé dès 1959 ce qui allait advenir, c'est-à-dire le vote de l'émancipation. Et les Français comme les Algériens ont compris progressivement ce qui allait se passer. Il y a eu des épisodes de résistance très violents du côté français, notamment avec ce qu'on a appelé la séquence de l'OAS. Mais déjà, au 5 juillet 1962, elle n'existe plus puisque l'OAS est parti en Espagne.
Ouais. L'Algérie a donc obtenu son indépendance au terme d'une guerre particulièrement longue, qui a fait des centaines de milliers de morts. L'essentiel des questions que nous avons reçues pour cette émission spéciale porte justement sur ce conflit. On va donc passer tout de suite au standard avec un premier auditeur. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Et nous vous écoutons avec Pierre Vermeuren.
Voilà, ma question est la suivante. Quel a été l'événement déclencheur de cette guerre d'Algérie ?
Ah, bonne question, effectivement. Pierre Vermeuren, peut-être avant de répondre à cette question qui est très précise, on peut peut-être rappeler en quelques mots le contexte politique en France et en Algérie lorsque la guerre pour l'indépendance éclate.
Oui. Vous savez, la Troisième République avait fabriqué, si j'ose l'expression, une cocotte minute en Algérie, parce qu'elle avait fabriqué un système qui devait assimiler l'Algérie au territoire français. Hein. C'est vraiment l'originalité de l'Algérie dans l'ensemble des colonies d'Afrique, c'est qu'elle est incorporée au territoire français sous forme de département avec toute l'organisation administrative française. Et puis, Alors, je pourrais aussi intégrer les quatre communes du Sénégal, pardon pour vos auditeurs, mais là, c'est à l'échelle d'un très grand territoire. Et les Algériens n'étaient pas prévus dans ce programme, puisqu'ils n'étaient pas citoyens français, ils étaient sujets français. Et donc, ils ont, un certain nombre d'entre eux ont lutté pendant très longtemps dans l'entre-deux-guerres, notamment pour obtenir la citoyenneté pleine et entière, dont ne voulaient pas les Européens parce qu'ils se seraient retrouvés minoritaires et dirigés dans leur propre colonie. Et donc, on a vu les tensions monter, la guerre a accéléré les choses, la situation a explosé en le 8 mai 45, elle a été réprimée, situation sociale dans une région du pays, au nord constantinois, et puis ensuite un processus politique, des organisations secrètes qui vont monter sur pied une opération et qui vont déclencher donc cette guerre d'indépendance, pour répondre à votre auditeur, le 1er novembre 1954, dans la nuit, une cinquantaine d'attentats sur l'ensemble du territoire algérien, qui vont faire juste quelques morts, mais qui signifient que un appareil politico-militaire vient d'être créé, le Front de Libération Nationale, qui à l'époque compte à peu près 2000 militants dans cette nuit de la Toussaint Rouge, et qui va déclencher donc les événements en chaîne qui vont suivre.
Et c'est quelques mois plus tard que la France instaure l'état d'urgence dans une partie de l'Algérie. Je remercie Blaise, qui nous appelait de Côte d'Ivoire. Diarouga, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe.
Vous êtes en Guinée, à Conakry exactement.
Oui, évidemment.
Nous vous écoutons.
Après les années 50, beaucoup de pays africains ont obtenu leur indépendance. C'est le cas de la Guinée. La Guinée, avec son président, Ahmed Sékou Touré, l'avait proclamé en 1958 sans qu'il n'y ait d'embûches ni même de la guerre. Alors ma question est de savoir comment expliquer que l'Algérie, elle, a face à elle, connu une si longue guerre pour obtenir son indépendance.
Une guerre qui aura duré près de 8 ans, on ne le cesse de le rappeler, Pierre Vermeuren.
Oui, alors quand la guerre d'Algérie commence le 1er novembre 1954, l'Indochine est indépendante, mais aucune colonie ou protectorat ou territoire d'Afrique. Je parle du point de vue français, évidemment. Et quand la guerre d'Algérie se termine, donc le 5 juillet 1962, toutes les colonies et territoires et protectorats français pratiquement ont obtenu l'indépendance. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie, comme c'était une partie du territoire français du point de vue de la France, c'était totalement la France, c'était une France qui débordait sur l'Afrique. Eh bien, la France s'est acharnée à garder ce territoire, qui est au risque de lâcher progressivement l'ensemble des autres territoires sous dépendance coloniale. Ça a d'abord été le cas de la Tunisie et du Maroc, puis des différentes colonies et territoires en Afrique, y compris Madagascar, y compris les territoires où il n'y avait pas vraiment de conflit. L'idée étant de se concentrer de plus en plus sur l'Algérie,
mais justement,
pour finalement quitter l'Algérie.
Mais pourquoi l'Algérie était-elle si importante pour la France de l'époque ?
Elle était si importante parce que finalement la France, alors on ne peut pas raconter toutes les guerres du 19e et du 20e siècle, mais la France, vous savez, à partir de Napoléon, entre en conflit impitoyable avec l'Allemagne. Et la France donc a été envahie sous Napoléon en 1870, confrontée à la guerre de 14, envahie en 1940. Et à chaque fois, la France s'est reconstruite, notamment son armée s'est reconstruite en Algérie, sur le territoire français, en Afrique, en Algérie. Donc je crois qu'il y a une espèce de dépendance qui s'est créée, et la France considérait, les hommes politiques français en tout cas de la 4e République, considéraient que la France sans l'Algérie, c'était un pays diminué, et c'est pour ça qu'il y a cet acharnement à garder l'Algérie, alors même que tout indique que ça ne peut pas se terminer bien.
Et une des raisons, et là je parle évidemment sous votre contrôle, Pierre Vermeuren, qui explique la longueur de la durée de cette guerre, c'est que c'était pas seulement une guerre entre la France et l'Algérie, entre les Français et les Algériens, il y a eu des affrontements franco-français, des affrontements algéro-algériens, il y avait des amitiés, des solidarités franco-algériennes. On voit bien la complexité de cette guerre.
Alors, c'est très complexe pour les raisons que vous dites, parce qu'il y a plusieurs guerres civiles qui sont emboîtées. Comme tout le monde était français, c'est une guerre civile, mais c'est vrai que c'est des conséquences terribles entre les Français, entre les Algériens, entre l'armée et le pouvoir, entre une partie de l'armée et l'autre, entre les Algériens pro-français, les autres, enfin bref. Deuxièmement, c'est pendant la guerre d'Algérie que la France a découvert le pétrole. L'Algérie est devenue une puissance pétro-gazière à ce moment-là, et donc la France a envie de rester, parce qu'elle se dit que grâce à ça, elle va être encore plus puissantes, donc ça a aggravé ce conflit. Et d'autre part, c'est un conflit international qui se déroule très largement dans les médias internationaux, dans les grandes villes internationales, Genève, surtout New York. C'est le moment de la guerre froide, et donc tout le monde se mêle de cette guerre. Les Algériens, le FLN, en réalité, vont gagner la guerre, non pas sur le terrain contre l'armée française, parce qu'ils font face à un rouleau compresseur, mais ils l'ont gagné sur la scène internationale et d'une manière assez brillante, c'est-à-dire politiquement. Et là, De Gaulle et là, personne ne pouvait rien faire de toute manière, puisque le vent de l'histoire était à la décolonisation et c'était un des derniers territoires importants à être décolonisé.
33 9 693 693 70. Abou a des questions à vous poser. Bonjour Abou.
Bonjour à tous.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Ouais, non, je me suis un peu renseigné sur la guerre en Algérie, mais c'est vrai que je sais peu de choses sur le nombre de morts ou les déplacés. Alors, a-t-on des estimations précises et vérifiées ?
Alors, l'historien que vous êtes, Pierre Vermeren, que répondre à cet auditeur quand on voit effectivement que selon les sources, le nombre de morts varie et de façon conséquente d'ailleurs ?
Oui, parce qu'il y a les chiffres des historiens et des acteurs, et puis il y a les chiffres politiques. Alors, le chiffre politique le plus connu, parce que c'est le plus simple, c'est celui que présente le régime algérien. Il dit 1 million, voire 1,5 million de morts, bon, des martyrs. Tous les historiens s'accordent à dire que c'est un chiffre qui ne correspond pas à la réalité, c'est un chiffre politique. Et entre historiens algériens, universitaires en Algérie ou en France ou en Europe, historiens français et historiens étrangers, notamment américains, il y a un certain consensus. La guerre d'Algérie a fait à peu près, dans une fourchette, 380 000 à 400 000 morts. C'est déjà assez considérable, c'est un peu moins que la guerre d'Indochine. Voilà, donc c'est évidemment l'immense majorité, 350 000 personnes étant des Algériens, mais parmi ces Algériens, 40 000 ont été tués par d'autres Algériens, hein, donc c'est ça les aspects de guerre civile. Alors maintenant, par rapport aux déplacés, là le chiffre est beaucoup plus important. C'est une question très importante puisque l'armée française a vidé des régions entières pour installer les villages, les habitants, soit dans des villes, soit dans des villages, les 1000 villages construit à neuf. Et là, ce sont des millions de personnes qui ont été déplacées, probablement 2 à 3 millions de personnes déplacées à l'intérieur d'Algérie. Et enfin, à peu près 150 000 à 200 000 personnes sont allées, des Algériens sont allés s'installer en France. Alors, il s'en suit aussi que à la fin de la guerre, 1 million de pieds noirs quittent le territoire progressivement et rentrent en Europe pour l'essentiel, et aussi 100 à 150 000 harkis, c'est-à-dire des soldats algériens qui avaient travaillé dans l'armée française.
On aura l'occasion de parler des harkis dans un instant. Kilim est à Lomé, bonjour.
Oui, bonjour Juan, je suis en déplacement sur Cara dans le cadre de la 4e journée du jeune entrepreneur organisée par le cabinet Kilim.
Bon, bah, écoutez, voilà qui est dit. Je crois que vous avez des questions, Kilim.
Voilà, la guerre d'Algérie a pris fin en 1962, mais il a fallu attendre 1999 pour que la France reconnaisse officiellement cet épisode comme une guerre. Alors, pourquoi a-t-il fallu autant du temps ?
Ah, pourquoi a-t-il fallu autant de temps ? Bonne question, Pierre Vermeren. Jusqu'en juin 1999, il n'y a officiellement pas eu de guerre d'Algérie.
Absolument, c'est le Parlement français, à la demande de Jospin, qui a reconnu la guerre. Alors, c'est à mon avis, si vous voulez, tout le monde parlait.
Jospin étant le premier ministre de l'époque, hein, je rappelle ça pour nos auditeurs.
Ah oui, absolument. Tout le monde, bien sûr, en France parlait de la guerre d'Algérie. Et tous les soldats, moi, dans mon enfance, c'était bien avant les années 90, tout le monde disait « j'ai fait ou je n'ai pas fait la guerre d'Algérie ». Donc, c'est une question juridique, en fait. C'est une question juridique parce que quand vous reconnaissez une guerre, ça a des conséquences. C'est-à-dire que vous dépendez d'abord des lois de la guerre, avec un tribunal international, avec des lois internationales, le code de Genève. Vous avez des devoirs par rapport aux anciens combattants, leur reconnaissance, leur retraite, y compris les Algériens qui étaient dans l'armée française. Donc, il y a vis-à-vis des anciens combattants français qui ont été appelés et qui n'ont pas seulement fait des opérations de police, comme c'était dit. Donc, les conséquences juridiques politiques, finalement, l'État français, que ce soit du point de vue national ou international, ne les a pas assumées et il a attendu que le temps passe, finalement, pour reconnaître cette réalité, mais que tout le monde connaissait, évidemment.
Il a fallu attendre 37 ans après les accords d'Évian pour que la France reconnaisse donc la guerre d'Algérie. Il nous reste 5 minutes. Justin, bonjour.
Bonjour.
À Lubumbashi.
Bonjour à tous les millions d'auditeurs. Il y a Lubumbashi, la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga.
C'est bien, merci de nous écouter dans le Haut-Katanga. Vos questions?
Oui, un peu comme la Belgique, la France a présenté ou a exprimé ses regrets, et cela à chaque fois qu'il faut le faire. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi la France ne veut pas présenter des excuses officielles suite à ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie.
Ouais, bonne question, là aussi, Pierre Vermeren, la France exclut toute repentance ou excuse pour son passé colonial en Algérie, même si on le voit, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, le président Macron s'efforce depuis son élection, il y a maintenant 6 ans, d'apaiser les mémoires, mais comment expliquer cette position de la France ?
Alors déjà, j'élimine la demande de pardon, parce que le pardon, c'est vrai que c'est une question très religieuse, et ça c'est un peu compliqué pour un État de faire une demande, une proposition religieuse. Bon, les excuses, c'est différent. Alors, les excuses, effectivement, le président Macron, dans sa campagne électorale de la première, en 2017, avait dit que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Depuis qu'il est président, il n'a jamais repris cette expression. Ses prédécesseurs avaient déjà reconnu l'ampleur de certains crimes, disons, qui avaient été commis, notamment en 1945, je me rappelle le président Sarkozy.
Surtout Sarkozy, puis ensuite François Hollande. Mais les prédécesseurs, absolument, et je pense à Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand ou Jacques Chirac, à aucun moment, ils n'ont condamné...
Oui, mais ça, si vous voulez, jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, en passant par Jacques Chirac et François Mitterrand, ils étaient des acteurs de la guerre d'Algérie, oui, et ils l'avaient faite, et ils voulaient que l'Algérie reste française. Donc pour eux, c'était difficile de s'excuser contre eux-mêmes. La nouveauté, c'est depuis l'élection de Sarkozy, parce qu'on a des présidents jeunes, qui étaient soit des enfants, soit qui n'étaient pas nés pendant la guerre d'Algérie. Et là, ça pose un autre problème, c'est-à-dire que est-ce que l'État doit s'excuser en tant qu'État, ou est-ce que c'est des gens, aujourd'hui, plus personne n'est contemporain de la guerre d'Algérie, hein, les plus jeunes combattants, aujourd'hui, ils ont 80 ans. Donc tous les acteurs qui ont dirigé la guerre sont morts. Il aurait fallu évidemment que les gens dans les années, à la fin du XXe siècle, qui étaient encore vivants, présentent leurs excuses. Et c'est là qu'on retombe sur ce conflit très compliqué. La classe politique s'est défaussée sur l'armée qui a commis, qui avait carte blanche pour maintenir l'ordre, quelles que soient les conséquences, et qui s'en est servie. Et la classe politique française, finalement, n'a jamais assumé vraiment cela. Le régime algérien en face pousse aussi à la roue et ne reconnaît absolument pas les violences qui ont été commises par le FLN. Donc, parce que une guerre, vous savez, c'était vraiment une sale guerre, et dans cette sale guerre, des violences terribles ont été commises des deux côtés, des crimes de masse, des attentats, des liquidations extrajudiciaires par milliers, et personne finalement ne reconnaît ses fautes. Et dans la mesure où les autorités algériennes se montrent très sourcilleuses, évidemment on peut les considérer comme les victimes, mais elles ne veulent pas du tout faire de l'histoire, elles font de l'idéologie sur cette question, qui du coup en radicalise, ou en tout cas entraîne les autorités françaises dans ce refus, dans cette position qui fait relativement corps en France, d'autant plus que l'armée, bon, aujourd'hui n'est plus concernée par la guerre d'Algérie, mais elle a dû faire cette sale guerre pour rien, parce que finalement cette guerre et ces milliers de morts ont été faits pour rien, et donc tout ça laisse un profond malaise. La commission Stora a essayé, le rapport Stora a essayé, à la demande du président de la République, de faire la lumière avec des gestes qui sont faits à l'égard des différentes communautés,
et certains
mais effectivement
gestes,
il n'y a pas d'excuse globale.
Effectivement, mais certains gestes ont été faits, je pense notamment à la reconnaissance par le président Macron de la responsabilité de l'armée française dans la mort de Maurice Audin. Il a reçu, le président Macron à l'Élysée, des harkis, des Pieds Noirs. Il y a une stèle aussi à la mémoire d'Abdelkader, héros national algérien du refus de la présence coloniale française. Il y a eu ces crânes de résistants algériens qui ont été restitués à l'Algérie. On pourrait en parler des heures, mais malheureusement, voilà, faute de temps, on va rendre l'antenne. En tout cas, merci infiniment, Pierre Vermeren, d'avoir pris 20 minutes ce matin dans votre agenda particulièrement chargé en ce jour historique pour l'Algérie. Je rappelle votre dernier ouvrage, Histoire de l'Algérie contemporaine de la Régence d'Alger au Irak. C'est aux éditions Nouveau Monde. On marque une pause, 10 minutes, le journal, et on revient tout de suite après pour parler de ce projet très controversé en Centrafrique, projet d'une nouvelle constitution.